Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Bandaka, en canoë kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, skim papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Voilà, arrêt du traitement aéré, quels sont les risques? Il peut arriver qu'une personne vivant avec le VIH-SIDA, éligible aux antirétroviraux, interrompe le traitement. Pourtant, cette prise en charge médicale permet essentiellement une réduction de charge virale chez la personne malade. À quel risque s'expose cette personne en cas d'arrêt du traitement sous ARV? Docteur Benjamin Alingar va répondre à cette question.
Ok, merci. Merci beaucoup, Radio Okapi. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment ici. Le VIH-SIDA reste un problème majeur de santé publique dans notre pays principalement et dans tous les pays en développement. L'introduction des antirétroviraux a amélioré sensiblement les conditions de vie de ces personnes vivant avec le VIH. Ça fait que ils recouvrent leur santé, ils recouvrent l'absentéisme au travail est amélioré, et sur le plan économique également, les rendements s'améliorent. Arrêter ces traitements appelle donc toutes ces conséquences dont nous parlons. D'abord,
Docteur Benjamin, Docteur Benjamin, avant de répondre à cette question, qu'est-ce qui peut pousser certaines personnes à arrêter ces traitements?
Ah, qu'est-ce qui peut pousser certaines personnes à arrêter ce traitement? C'est d'abord les conditions dans lesquelles ces personnes ont été mises sous traitement ont-elles été respectées? Est-ce qu'on leur a donné tous les préalables en rapport avec la mise sous traitement? Est-ce que le dépistage a été fait selon les normes? Est-ce que la personne a reçu toutes les explications nécessaires requises à la mise sous traitement? C'est à toutes ces questions-là qu'il faut savoir répondre avant que la personne... Est-ce que la personne a adhéré à ce traitement ou pas? C'est tout, à toutes ces questions-là qu'il faut répondre pour trouver les raisons à l'arrêt du traitement.
Oui.
Maintenant, les conséquences, je vais parler des deux conséquences majeures sur le plan de la personne, d'abord, parce que lorsque la personne est sous traitement, nous avons, je parlais tout à l'heure de tous les avantages que la personne tire, que sa famille tire, que sa communauté tire, que son entreprise et même sa nation tire. Mais, du point de vue de la personne elle-même, il y a deux conséquences majeures. C'est d'abord, un, l'émergence de la résistance, c'est-à-dire le virus devient résistant au traitement que le malade a dû arrêter. Ça, c'est la première conséquence majeure. Deuxièmement, c'est l'émergence des infections opportunistes qui était jugulé avant, parce qu'il y a eu des conditions avant de mettre quelqu'un sous antirétroviraux. Il faut s'assurer que toutes les infections opportunistes que la personne présentait au début ont été maîtrisées, et alors on soumet la personne sous traitement pour pouvoir améliorer son état immunologique et empêcher ainsi que les infections opportunistes deviennent dérangées. Donc ce sont là les deux conséquences majeures auxquelles la personne s'expose, et lorsqu'il y a émergence des souches résistantes, c'est-à-dire le virus lorsqu'il devient résistant, et que la personne n'est pas suffisamment bien éduquée, la personne va se mettre propager ces souches résistantes dans la communauté et la personne devient un danger public pour toute la communauté.
Voilà. Docteur Alinger, vous êtes interniste à la clinique Gallimard, vous vous occupez de ce volet des antirétroviraux dans cet hôpital. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous entendez par infection opportuniste, hein?
Ah, infection opportuniste, c'est bon, en termes où tout le monde peut comprendre, c'est toute infection qui survient chez une personne vivant avec le VIH, c'est-à-dire une personne immunodéprimée, une personne qui n'a pas sa défense, où le système immunitaire ne fonctionne pas normalement, qui contracte une infection opportuniste, c'est ça qu'on appelle une infection, c'est ça qu'on appelle infection opportuniste.
Voilà.
Et il y en a de plusieurs, plusieurs ordres. Il y a des infections pulmonaires, il y a des infections cérébro-méningées, il y a des infections cutanées, il y a des infections osseuses, il y a des infections urinaires, il y a des infections digestives, ainsi de suite. Donc, l'ensemble de l'organisme peut être concerné par telle ou telle autre infection lorsque la personne est immunodéprimée.
Oui. Alors, docteur Alinger, il peut arriver qu'un malade arrête le traitement parce que il y a un désengagement des bailleurs de fonds, il n'y a plus d'ARV disponibles. On a entendu des choses comme ça dans certains coins du pays. Alors, dans ces cas-là, quelle est la solution?
Bon, je suis très mal placé pour donner une réponse à cette question. La réponse à la question pourrait être mieux donnée par ceux qui gèrent les programmes nationaux de lutte contre le sida. Mais néanmoins, moi, dans ma cellule, jusque-là, ici à la clinique d'Allemagne, il n'y a pas de rupture des antirétroviraux. Tous nos malades continuent à recevoir leur traitement normalement. Néanmoins, dans certains coins de la République, on parle des ruptures ou d'une éventuelle rupture.
Oui.
Est-ce que ce sont des rumeurs? Est-ce que ce sont des vérités? Bon, il faut avoir l'information à la source auprès du programme pour pouvoir confirmer cette soi-disant rumeur.
Voilà. Donc, disons que ce traitement ARV est un traitement à vie.
Oui, jusqu'à preuve du contraire, ce traitement, lorsqu'il est instauré, c'est un traitement ad vitam. C'est un traitement à vie qu'on ne peut pas interrompre, pas une seule fois, pas un seul jour. Et c'est un traitement qui doit être observé à des heures précises des prises. Donc il y a tout un préalable, toute une éducation qu'il faut faire. Qu'il faut donner aux malades lorsque on commence le traitement aux antirétroviraux.
Voilà. Alors, docteur Alinger, est-ce que tous les malades du SIDA sont éligibles au programme, au traitement ARV?
Non, tous les malades ne sont pas d'emblée éligibles. Lorsque vous avez une personne vivant avec le VIH, vous à votre consultation, vous l'examinez, et cliniquement, s'il n'a pas de signes en rapport avec des infections opportunistes, et si sur le plan biologique, il a des paramètres qui n'exigent pas qu'on puisse commencer le traitement aux antirétroviraux, notamment les taux de CD4, les CD4, que nous dosons ici, et même la charge virale, à certaines valeurs, cette personne peut être surveillée mensuellement, vous les contrôlez sur le plan clinique et sur le plan biologique, et on ne peut pas mettre tout le monde comme ça d'emblée sous pression antirétroviraux.
Des questions, des réactions, composez le 081-800-963-94. Vous avez également la possibilité de nous écrire à service@radiocapi.net ou à nous faire parvenir un texto au 081-070-2050.
Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Utopie réunit des spécialistes compétents dans votre système. Toute une équipe de nouveaux invités fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, conseil au monde rural, droits des citoyens, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Au Capitaine Service, de lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa. Au Capitaine Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Nous parlons à présent de l'arrêt du traitement ARV. Quels sont les risques? Notre invité, c'est Dr Benjamin Alinga, interniste à la clinique d'Alema. Il est chargé de ce volet ARV dans cette clinique. Alors, docteur, vous avez dit qu'il y a deux conséquences lorsqu'on arrête ces traitements. Il y a d'abord l'émergence de la résistance et l'émergence des infections opportunistes.
Oui, ce sont les deux conséquences majeures que nous avons, au-delà des autres aspects que nous avons abordés, c'est-à-dire la personne perd globalement son état de santé avec comme conséquence sur le plan social, donc directement dans sa famille, dans sa communauté, sa nation, et ainsi de suite, d'autres conséquences qui sont conséquences de ces deux grandes conséquences, excusez-moi, la tautologie.
Oui. Alors, quelles sont les mesures alors qu'il faut prendre pour éviter qu'un jour un malade soit tenté peut-être d'arrêter ce traitement?
Oui, les mesures, il faut d'abord rendre disponibles ces antirétroviraux qui soient accessibles à la grande majorité, si pas à l'ensemble de la population dans notre pays, parce que ici nous parlons des grandes villes, nous avons parfois certains malades qui nous viennent de l'intérieur du pays, qui ne savent même pas si les antirétroviraux existent, et là, je pense que c'est l'autre volet de l'émission qu'il faudra aborder. Donc, la sensibilisation elle est très importante pour ces traitements. Et ensuite, avant de commencer ce traitement, s'assurer du préalable, s'assurer de l'adhésion de la personne. Parce que c'est une contrainte que de prendre des médicaments à 18 ans. Il faut que la personne comprenne le bien fondé de ça et que la personne adhère. Et ensuite, il faut rendre disponible les différents centres d'accès au traitement le plus près possible de la population, parce qu'une autre contrainte, c'est quoi? C'est la distance que la personne doit parcourir, et ceci implique pour la plupart des gens malades qui sont économiquement démunis, ils doivent venir de très loin pour pouvoir chercher les médicaments. Parfois, ils ne viennent pas faute de moyens de transport. Donc, pour disponibiliser ces médicaments le plus près possible de nos malades, c'est aussi un des préalables pour éviter ce genre d'incidents.
Oui. Un auditeur en ligne depuis Manema, il s'appelle Olivier, il nous appelle des Kindu au Manema. Bonjour Olivier.
Bonjour, monsieur Jédi Kachama.
Oui, quelle est votre préoccupation?
Oui, j'aimerais juste savoir, puisque monsieur le docteur vient de dire que ce n'est pas tous les malades vivant avec le VIH qui doivent commencer directement avec le traitement des antirétroviraux. Alors, quand est-ce qu'un malade vivant avec le VIH peut commencer avec les antirétroviraux?
Quand est-ce qu'un malade vivant avec le VIH peut commencer avec les antirétroviraux? C'est lorsque ces malades, principalement, a un taux de CD4 en dessous, certains parlent de 350, d'autres parlent de 300 par élément par millimètre cube. C'est-à-dire, sur le plan biologique, vous avez ce taux de CD4 en dessous de 350, et vous avez sur le plan clinique la maîtrise de toutes les infections opportunistes. Ce sont là les deux conditions où on peut commencer les antirétroviraux en général.
Oui, alors,
naturellement, il faut un médecin pour prescrire les antirétroviraux. Donc, ça suppose une consultation auprès d'un médecin qui va vous évaluer sur le plan clinique et sur le plan biologique, en s'assurant que vous avez un taux de CD4 qui indique de commencer les traitements anti rétroviraux, vous n'avez pas un problème hépatique, vous n'avez pas un problème rénal, vous n'avez pas une infection opportuniste active, à ce moment-là, vous êtes éligible pour les traitements aux antirétroviraux.
Alors, quand vous parlez du taux de CD4 en dessous de 350, c'est trop technique, docteur. Pouvez-vous expliquer cela en des termes beaucoup plus simples?
Bon, en des termes beaucoup plus simples, je ne sais pas comment je peux le faire. C'est un dosage qui s'est fait au laboratoire.
Oui.
Ici, nous avons certains laboratoires dans la ville, à l'hôpital général, le laboratoire national de référence, et d'autres laboratoires à travers la ville qui dosent ces... Enfin, les CD4 sont, je peux les appeler des cellules à des termes plus simples, c'est un élément qui nous montre les degrés d'atteinte de la maladie, les degrés d'avancement de la maladie chez la personne testée.
Voilà, et cela, ça se fait au niveau du laboratoire.
Au niveau du laboratoire. Donc, le CD4, ça se fait concomitamment. Dosage de CD4 et avec dosage de la charge virale. C'est-à-dire, on mesure la quantité de virus qu'a la personne. Et lorsque la charge virale est élevée, ça signifie que les CD4, qui sont des cellules cibles, les cellules que le VIH attaque. Les cellules qui nous défendent.
Oui.
Ce sont ces cellules-là, lorsque leur taux diminue, ça signifie que le nombre de virus augmente. À ce moment-là, on peut aider quelqu'un pour commencer les traitements aux antirétroviraux.
Alors, docteur Alinga, une personne qui n'a pas contracté le VIH, à quelle quantité de CD4?
Bon, les valeurs normales des CD4 varient entre 450 éléments par millimètre cube et 1500 éléments par millimètre cube. Donc, une personne normale devrait se situer dans ces marges-là.
Oui. Alors, pour une personne, après tous ces examens, on trouve que la personne est éligible au traitement antirétroviraux. Alors, comment doit se faire la prise? D'abord, comment se passe l'entretien entre le malade et le médecin? Quelles sont les informations importantes que le médecin fournit au malade?
Voilà, ici je vais partager notre expérience ici à la clinique d'Alima pour illustrer cette question. Ici, dans notre cellule, nous avons ce qu'on appelle le centre de dépistage volontaire, CDV, qui ont des responsables. Et lorsque le malade arrive en consultation auprès d'un médecin, et que le médecin suspecte une infection au VIH, le médecin oriente les malades auprès de cette cellule qui est animée par des personnes formées. La personne aura des entretiens là-bas sur la maladie pour convaincre la personne à passer son test de façon volontaire, comme on le dit. La personne accepte et passe les tests. C'est ce qu'on appelle les counseling pré-tests. Après, le résultat est là, il y a un counseling post-test pour lui annoncer ses résultats et on va chercher maintenant la personne auprès du médecin prescripteur qui pourra examiner la personne, voir si cliniquement la personne a des infections opportunistes ou pas. Il va avec son code, parce qu'on lui donne un code pour éviter la stigmatisation, on lui donne un code, la personne est identifiée par un code qu'il reçoit du CDV, et c'est désormais sur base de ces codes-là que la personne va être suivie par le médecin prescripteur. Après un petit bilan clinique et paraclinique, c'est-à-dire une radiographie du thorax, une échographie abdominale, le bilan rénal et hépatique, les dosages de CD4 et de charge virale, lorsque tous ces examens font que la personne est éligible pour commencer les traitements aux antirétroviraux, à ce moment-là, le médecin prescripteur est en droit, en tout cas s'agissant des autres cellules ici, des autres cliniques, est en droit de commencer les antirétroviraux avec un conseil pour la gestion des effets secondaires. D'autres raisons qui font que les gens abandonnent, c'est justement la survenue des effets secondaires liés à ces médicaments aux antirétroviraux.
Oui. Un auditeur en ligne, il s'appelle Didier, il nous appelle de Kolwezi au Katanga. Didier, bonjour.
Une précurseur là. Les maladies opportunistes interviennent après combien de mois?
Oui, Didier, oui, si vous pouvez reprendre votre question. Didier, vous êtes en ligne depuis Kolwezi? Bon, je crois qu'il a parlé des maladies opportunistes. On prend le deuxième auditeur, Katereka, il nous appelle également des Kolwezi au Katanga. Bonjour.
Qu'est-ce que le programme national prévoit-il pour pouvoir couvrir toute la population cible?
Voilà, qu'est-ce que le programme national prévoit pour disponibiliser, vous voulez dire, pour rendre disponibles les ARV? Docteur Alinga.
Ok, merci, merci beaucoup, M. Kassereka d'écologie. Bon, la question devrait plutôt être adressée au programme national. Moi, je ne suis pas programme national, moi, je suis prescripteur dans ma clinique. Bon, c'est le programme qui est mieux placé pour donner réponse à cette question-là.
Voilà, le premier auditeur a posé la question de savoir à quel moment les maladies opportunistes se manifestent.
Ah ok, à quel moment les maladies opportunistes se manifestent? Les maladies opportunistes se manifestent à tous les stades de la maladie. Sachez que l'OMS classifie cette pathologie, cette maladie en 4 stades, donc du stade 1 au stade 4, avec différentes caractéristiques. Ce n'est pas l'objet de notre émission ici, mais les infections opportunistes peuvent survenir à n'importe quel stade de la maladie.
Alors, docteur Alinga, vous avez parlé des effets secondaires qui peuvent pousser un malade à arrêter le traitement. Quels sont les effets qui sont souvent rapportés?
Bon, vous savez que les antirétroviraux comprennent actuellement 3 molécules. On parle de la trithérapie. Bon, la trithérapie qui comprend 3 molécules, et par rapport à notre schéma actuel proposé par le programme national des luttes, nous avons 3 médicaments essentiellement. Nous avons la lamivudine, nous avons la gibavudine et nous avons la nifurapine. Nous avons également les favirases pour les médicaments de première ligne. Chacune de ces molécules a des effets secondaires. Si je prends la nifurapine par exemple, comme effet secondaire majeur, vous avez une allergie pouvant aller jusqu'à des brûlures, carrément, un peu comme les batteries le fait. Ça, c'est la nifurapine. Quelqu'un qui a ça, qui a des châtiments d'abord, et puis qui a des brûlures, vous comprenez que cette personne peut avoir peur. Si je prends les favirases, par exemple, ça peut entraîner des euphories, des hallucinations. Quelqu'un qui prend ce médicament, il a des hallucinations, et ainsi de suite, il va subir... il peut être amené à arrêter les traitements. Si je prends la gibavudine, par exemple, l'AZT, qui est une des vieilles molécules à laquelle nous sommes revenus aujourd'hui, c'est la survenue des anémies à répétition, alors que quelqu'un qui a son taux de sang qui baisse à tout moment et appelé à être transfusé assez régulièrement, tu vois que cette personne peut se fatiguer, la famille également peut se fatiguer. Bref, il y a un certain nombre d'effets secondaires. Il y a la stabilité dans certains coins de la République. Ils utilisent encore des schémas qui comprennent la stabilité, la musulide et la nifurapine. Et la stabilité, principalement, les neuropathies, il y a en train de neuropathie, donc quelqu'un qui perd la sensibilité. Vous voyez quelqu'un qui est en train de marcher et qui oublie ses babouches et ne se rend pas compte qu'il a perdu ses chaussures. Donc il ne sent pas. Ce sont des effets également pour la stabilité et de l'hypodystrophie. Vous avez des dépôts de graisses sur les parties du corps et c'est vraiment inesthétique et ça fait que les gens parfois peuvent être amenés à abandonner les traitements. Donc, ce sont des effets secondaires majeurs dont je parle ici, sans citer les effets sur le foie, sur les reins, ainsi de suite, qui peuvent amener les gens à abandonner les traitements. Mais nous conseillons toujours à nos malades, lorsqu'ils ont ces effets secondaires, parce qu'on leur en parle avant de commencer le traitement, lorsqu'ils ont ce genre d'effets secondaires, c'est dû de revenir auprès de la personne qui
vous a prescrit les médicaments et cette personne est qualifiée pour lutter contre ces effets secondaires.
Voilà, et la personne va lutter comment?
Bon, il y a des thérapeutiques, là c'est toute la médecine.
Oui.
Il y a des thérapeutiques qu'on propose lorsque les médicaments ne répondent vraiment pas pour la personne, on remplace et on passe à ce moment-là au traitement des deuxièmes lignes qui existent également dans nos milieux.
Donc, si je comprends bien, malgré ces effets secondaires, il ne faut pas tout de suite arrêter le traitement.
Il ne faut pas arrêter,
oui.
C'est pas arrêter de vous-même, c'est le prescripteur qui sera amené à arrêter tel pour vous en proposer d'autres alternatives.
Bien, merci docteur Benjamin Alinga, interniste à la clinique Ngalima et chargé de la cellule IOV dans cette clinique. Nous vous disons merci pour votre disponibilité et à la prochaine.
Merci beaucoup, merci Radio Okapi et merci à tous les auditeurs.